Le retour de Radio X.
C'est de la snoot.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Hey, que ça va vite, 15h50, Maria Mourani, criminologue, auteur aussi de Face cachée des gangs de rue. Bienvenue à l'antenne.
Salut, salut.
Ça va bien?
Ça va bien et vous?
Passez un bel été.
Oui, ça va, ça va. Je vais essayer de trouver une place pas trop bruyante là.
OK, parce que vous aviez écrit au mois de mai, dans vos chroniques du journal, qu'on était pour avoir un été chaud au niveau des gangs de rue et du crime organisé. Est-ce que vous considérez qu'on a eu un été chaud?
Ben, moins chaud que je l'aurais cru, quand même.
Ce qui est une bonne nouvelle.
C'est sûr que dans certains coins, c'était pas trop reposant, mais j'ai connu des étés plus chauds. C'était quand même pas si pire. Parfois, on s'habitue, on devient habitué, disons. C'est plate à dire, hein? Mais une société, à un moment donné, elle s'habitue à un certain niveau de violence. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'était moins pire que je le pensais.
On a un seuil de tolérance plus élevé avec... C'est sûr qu'on a eu une grosse année avec BFM, entre autres. Là. J'aimerais te faire entendre, Maria, le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Laferrière, ouais, sur le crime organisé.
Puis le message est très clair pour le crime organisé. La récréation a sonné, on veut travailler contre eux.
Mais les gangs de rue, le trafic de drogue à Montréal...
L'exploitation sexuelle des mineurs aussi.
L'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un grave problème. Là. Les effectifs policiers disent souvent qu'on n'a pas suffisamment d'aide. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus en un an?
Je vais prendre le temps de consulter les gens sur le terrain, mais la première chose que j'aimerais qu'on comprenne, on parle souvent de Montréal, c'est un phénomène qui est présent partout. J'étais tout récemment sur la Côte-Nord, c'est là aussi. Vous savez, quand on parle d'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un dossier que je connais très bien. J'ai présidé la commission. D'ailleurs, on est le premier parti à avoir décidé de s'attaquer à ce fléau. On va continuer, mais on va continuer avec les Québécois.
Je vais sortir un chiffre du chapeau, là. Ça fait 17 ministres de la Sécurité publique qui nous disent « c'est terminé le crime organisé ». Et ça donne jamais de résultat.
Mais ça peut pas se faire, c'est impossible. Terminer le crime organisé, là, je connais pas une société où il n'y a pas de crime organisé, là, à moins que ça soit une toute petite société tribale. Les grandes villes, même le Japon, qui est l'un des pays les plus sécuritaires, là, il a son crime organisé, qui est les Yakuza. Donc, le crime organisé, il est là pour rester. La seule chose, c'est comment on peut faire pour faire l'équilibre. En fait, quand ça dérange le crime organisé, c'est plate à dire, mais c'est ça la réalité. Quand il dérange, c'est quand le jupon dépasse. C'est-à-dire que quand la violence, quand il n'y a pas cet équilibre-là entre leurs activités criminelles et le sentiment de sécurité de la population. Quand ça déborde. Quand il y a trop de violence, quand il y a des situations auxquelles on n'est pas habitué, par exemple que des enfants de 14 ans, 15 ans se fassent recruter pour aller faire des jobs de bras, c'est quand c'est exagéré, là la population commence à réagir et de facto, quand la population réagit, ben les politiciens réagissent. En fait, le gros problème, moi, je pense qu'on a au Québec, puis ça, je l'observe, quels que soient les gouvernements, là, ça n'a absolument rien à voir avec les partis politiques ou ceux qui prennent le pouvoir. C'est tout le monde dans la même affaire. Je trouve qu'il n'y a pas de vision globale au Québec. On n'a pas une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on va agir quand ça va mal. Alors, quand on voit que les armes à feu, ça augmente, puis que ça tire dans nos rues... Là, on va réagir. On va faire tout le temps du colmatage de brèches. C'est tout. Concernant les itinérants à Montréal, c'est pareil. On a attendu que ça dégénère. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, je leur avais dit, il ne faut pas que vous mettez au centre-ville les fameux sites là, de piquerie et de soi-disant ces endroits-là où on peut se piquer en toute sécurité et compagnie. Je dis ça, c'est le bordel. Parce qu'à Vancouver, je l'ai vu de mes yeux.
Ben oui.
Je suis allée à Vancouver. C'est le bordel là-bas. C'est, ça n'a pas d'allure. Le mainland, là, c'est abominable. Et lorsque la Cour suprême là, a débouté malheureusement a débouté les conservateurs. C'était Stephen Harper à ce moment-là. Là, il l'avait débouté concernant justement ces sites supervisés de piquerie, là. Appelons-les comme on veut. On peut mettre un mot politiquement correct d'injection supervisée, mais c'est des piqueries légales, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, à ce moment-là, moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, et puis je l'ai dit, je l'ai redit, j'ai dit ça, à partir du moment où la Cour suprême autorise ça, parce qu'avant, c'était juste à Vancouver, parce que c'était pas clair. C'est quand Stephen Harper a décidé de ne plus donner de subvention, d'interdire, parce que c'était un peu la prérogative du ministre d'accepter qu'il y en ait. Alors, eux, ils sont allés jusqu'en Cour suprême et ils ont gagné. Quand ils ont gagné, maintenant, tout le Canada s'est retrouvé pogné avec cette affaire-là. Et là, maintenant, ils voulaient ouvrir des sites d'injection un peu partout pour la sécurité, pour la santé, etc. Puis voilà, c'était un désastre annoncé. Regardez maintenant le centre-ville, c'est un désastre.
J'arrive de là ce week-end, justement. L'allée du crack, hein, ça, c'est une ruelle, justement, où c'est une piquerie supposément supervisée, mais ils ont perdu le contrôle. Puis on se promène, on voit les petites familles mélangées avec des gens complètement inertes. J'ai même voulu porter assistance à un homme, puis les gens me regardaient en voulant dire, voyons, on fait rien pour lui, il n'y a rien à faire, là, il est juste gelé. Je suis comme, mais voyons donc. On est rendu là, c'est triste.
C'est très triste, parce que ce sont des gens complètement dans le besoin, des gens qui ont complètement perdu la carte. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Ça. Urine dehors, c'est horrible. Puis c'est comme la mairesse Oublion, elle s'en va, donc elle s'en fout. Tout est complètement le bordel à Montréal avec ça.
Non, il n'y a plus de toute façon, à tous les niveaux, il n'y a plus de pilote à Montréal. Ça fait plusieurs mois. Là, on va s'en, je ne sais pas si c'est d'accord avec nous.
Contre, il y a beaucoup de comment dire, là où le pilote il est, là, à Montréal, c'est sur les pistes cyclables. Ça, ouf, mon Dieu qu'il y en a.
On a calculé hier, on était à combien?
1065, me semble.
1065 kilomètres de pistes cyclables. Ça, c'est une priorité pour la mairesse. On entend beaucoup moins parler de BFM. Je me dis, bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais moi, quand on entend moins parler d'un groupe, c'est parce qu'il se prépare quelque chose, il se réorganise. Si tu pouvais nous faire, Maria, un portrait de la situation en ce moment à Québec, dans la région de Québec, on entend moins parler. On me dit, moi, en tout cas, les contacts que j'ai, c'est que les Hells Angels ont comme repris un certain contrôle. Ils ont repris une certaine audace, là, sont plus cocky avec la gang de BFM. Est-ce que c'est le portrait que toi, tu fais en ce moment sur le terrain?
Bon, ce qu'on voit, moi, je me base aussi beaucoup de ce qui se passe en dedans. C'est un bon écosystème, là, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis en plus de ce qu'on me raconte. Oui, c'est vrai que, vu qu'ils ont... que Al Boivin, on ne sait plus trop où il est, que l'autre, il est en Espagne, donc on ne sait plus trop... c'est comme si les troupes sont un petit peu, quand même pas désorganisées, mais ils savent plus trop. Alors, moi, j'entends, BFM, c'est comme une espèce de pétard mouillé, là, ça va disparaître. Puis bon, les gars se réorganisent pour faire d'autres groupes, parce que c'est ça qu'il faut comprendre avec les gangs. Les gangs, là, c'est pas des organisations criminelles très structurées comme les Hells ou bien comme les différentes mafias qu'on peut avoir. Quand les chefs sont soit tués, soit emprisonnés, soit en cavale, l'organisation est tellement en fuite qu'elle se dissout. Mais ça veut pas dire que les gars vont pas se réorganiser autrement. Ça se peut qu'ils reviennent sous d'autres noms. Ça se peut qu'ils reviennent avec leur nom. Tout va dépendre du cash qu'ils vont pouvoir mobiliser. C'est ça l'affaire. C'est pas des alliances d'amour et d'amitié, là. C'est des alliances de qui paye le plus cher. Actuellement, moi, ce que j'entends, un petit peu comme toi, c'est que les F commencent à reprendre un petit peu. Mais par contre, il semble qu'il y ait d'autres groupes qui sont plus ou moins alliés avec les F, des groupes plus ou moins alliés. Avec BFM, donc des anciens amis à BFM, des amis plus, je dirais, plus forts, qui ont des relations plus importantes avec BFM, qui sont un petit peu là pour empêcher les Hells d'essayer de récupérer un petit peu leur pouvoir. Donc, c'est vrai que les Hells essayent de reprendre leur pouvoir, mais ils le reprennent un peu. C'est pas aussi facile que cela l'était il y a 10 ans de ça.
Puis comment ça peut se passer pour la suite? Est-ce qu'on pourrait les voir carrément sortir de nulle part, mettons, sous un autre nom du côté de la Blood, si, mettons, on voit qu'il y a des gens qui sont partis du groupe? Est-ce que ça pourrait être un coup qu'on donne aux Hells d'ici quelques mois, par exemple?
Tout est possible. C'est pour ça, c'est très volatile comme situation. Même en dedans, là, on voit certains groupes se réorganiser, se mettre entre eux, puis des groupes qui n'étaient pas ensemble se mettent ensemble. Il y a même des groupes de l'Ontario là qui donnent leur support à certains gars de Montréal contre les Hells. Donc, on ne sait pas comment ça va tourner. Moi, j'entends beaucoup parler aussi de Arab Power, que c'est en train de se réorganiser en d'autres noms encore, puis avec d'autres gars, avec des gars de BFM qui sont plus BFM, qui disent qu'ils sont plus BFM, mais c'était des BFM. C'est ça, les gangs, hein? Pour les suivre, il faut s'accrocher, là.
Le groupe, là, la gang de rue que vous venez de nous mentionner,
Arab
là,
Power.
C'est pas des doux, là.
Non, mais il n'y en a aucun qui sont des doux. La nouvelle génération, là, c'est des gars qui sont très portés sur la violence, même si dans le crime organisé, là, que ce soit dans le milieu criminel de groupe, là, c'est-à-dire organisé ou même gang de rue, ben, c'est pas des enfants de cœur en général.
Est-ce que tu confirmes? Parce qu'il y a une recrudescence ici des invasions à domicile. Il y a eu une histoire très tragique, là, mais finalement, c'est pas les gangs de rue. Là, c'est un gars qui avait plus de problèmes de santé mentale. Mais on me dit que c'est pas toujours rapporté dans les médias, là, mais il y a beaucoup de vols dans les maisons. Les invasions à domicile, on vole et ce qu'on vole dans les maisons, on revend ça sur Marketplace ou à des endroits comme ça. C'est comme une nouvelle façon pour eux de faire du cash.
C'est pas juste des gangs qui font ça. Alors moi, je ne crois pas que ce soit juste des gangs qui font ça. Depuis la fin de la pandémie, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une grande précarité. La précarité a gagné beaucoup, beaucoup de chemin. C'est-à-dire des gens qui, avant, n'étaient pas forcément... Dans la grosse précarité, se retrouve dans la précarité. Donc, il faut savoir que lorsqu'on vit dans une société où il y a de la précarité et de l'inégalité, il y a une augmentation de la criminalité de ce type. Vol de voiture, vol de maison, vol à main armée, voie de fait, les gens sont plus irritables, ils se tapent dessus à la sortie des bars, plus qu'avant. Donc, il faut faire attention entre la criminalité des gangs et la criminalité régulière. C'est-à-dire qu'ils vont impliquer des jeunes, des moins jeunes, qui avant, on ne voyait pas forcément dans le milieu criminel, mais dont la précarité pousse à commettre des actes criminels. Il faut faire attention entre ces deux-là. Mais c'est sûr que la petite nouveauté qu'on voit, qu'on voyait un petit peu avant, mais ce n'était pas aussi prononcé que maintenant, c'est que maintenant, les gars de gang, la nouvelle génération de gang, c'est beaucoup sur Internet, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça recrute des jeunes de toutes les origines, de toutes les classes sociales. C'est le petit jeune là qui est allé à Frontom là. Il était avec un autre jeune, puis il était avec une gang d'adultes.
14 ans,
ans. Là-bas. Ouais. Puis ce jeune-là, il vient d'une très bonne famille, des gens très aimants, classe sociale moyenne. Les parents, c'est des gens qui travaille, sa sœur est dans une université. C'est pas du monde là, qui vit dans le ghetto, qui est sur le crack, puis qu'au fond, là, il va pas à l'école. C'est un jeune qui voulait faire du soccer, était bon à l'école, tout ce que tu veux. Et comment ils l'ont eu? Ils l'ont eu par la peur. C'est ça le plus triste, c'est que maintenant à Montréal, et même à Québec ou ailleurs au Québec, il y a des enfants qu'ils ont 14, 13, 14 ans, ils deviennent des cibles de ces gars-là, parce que pour eux, c'est de la chair à canon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent ces jeunes-là par la peur. Ils vont, par exemple, les taxer, ils vont faire le bad cop, good cop, bad cop, là. Puis, ils vont récupérer, par exemple, c'est le cas de Yanis qui est allé à Frenton.
Ouais.
Ils l'ont taxé, puis après ça, ils lui ont redonné ses affaires en lui faisant croire qu'ils sont des grands frères. Nous, on est comme un grand frère pour toi, on est là pour te protéger, plus personne va... Et après ça, ils l'ont embarqué. Le jeune, il est tellement dans la peur, il les voit, il voit comment ces gens-là sont tellement violents, ils peuvent faire beaucoup de dommages, ben, ils vont rentrer dans le rang. C'est un embrigadement que ces jeunes-là ont. Et ça, pour moi, c'est nouveau ce que je vois. Ça, pour moi, c'est vraiment post-pandémie.
Ouais,
il y avait du recrutement des plus jeunes avant, mais c'était pas comme ça. C'est-à-dire, on mettait pas de gun dans la main, on les envoyait pas à l'abattoir. Il fallait qu'ils aient à peu près 16-17 ans pour qu'on commence à leur donner des guns.
Ouais, c'est ça.
Il y avait comme une espèce de gradation.
C'est passé à un autre niveau. Puis je sais pas si tu l'as vu passer cet été, Maria, mais ça a été un des gros moments du côté de Québec, dans la grande région de Québec, c'est-à-dire parce que à Saint-Étienne-de-Lauzon, du côté de Lévis, il y a trois gars, j'imagine, de la Blotte qui sont débarqués en plein après-midi, armés. Un des trois avait un fusil, sont allés cogner chez quelqu'un. Puis, on voyait jamais ça avec les Hells avant. Là, c'est des choses qui peuvent se produire, malheureusement, avec ces gangs-là. Puis, on n'a pas peur de sortir les armes pour intimider les gens, même autour. Puis, tu sais, on parlait de... C'est arrivé un moment, pendant les vacances de la construction, en plus. C'est très particulier, là.
Oui. Et en même temps, je te dirais... Il faut toujours analyser pour voir est-ce que ce sont des bostages, tu sais, de territoire. C'est-à-dire, je m'en vais, je sais que le gars, il a de la dope, puis je départ. Je connais pas le cas spécifiquement que tu me dis, là, je l'ai pas vu passer. Mais il faut toujours se demander, quand ces gars-là s'en vont quelque part, soit qu'ils foutent le feu, soit qu'ils rentrent, puis ils volent, puis ils tabassent ou ils tuent, etc. Toujours se demander si c'est pas un repère. C'est-à-dire, si c'est pas une cache pour les Hells Angels, parce que ça, on va beaucoup le voir. Et de la même manière, tu peux avoir les gars, ils se retrouvent dans des bars. C'est-à-dire, ça, je pense, je l'ai vu à Québec, chez vous. Dis-moi si je me trompe, mais il y a eu comme une bagarre à la sortie, puis il y a eu un, je pense que c'est soit le frère ou le fils d'un patché qui s'est fait tabasser, et il y a eu grosse bagarre, et puis au fond, tu sais, ils se sont retrouvés dans le même lieu, que ce soit des gars de BFM ou que ce soit des relations motards là, qui se retrouvent ensemble, et puis à la fin, ça dégénère en bagarre, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'on va, selon moi, on va le voir de plus en plus. Soit des maisons qui se font attaquer, des appartements qui se font attaquer parce que c'est des vendeurs, hein, des vendeurs d'un groupe ou de l'autre. Soit des gars, quand ils se retrouvent dans des lieux publics, ils vont s'auto-attaquer. Ça, on va le voir de plus en plus, selon moi.
Mais moi, je dis aux gens, là, verrouillez vos portes, puis système d'alarme, puis et voilà. Et merci beaucoup, Maria. C'est toujours, toujours un plaisir de jouer avec toi.
Avec grand plaisir.
Merci.
Bye-bye.
Le retour de Radio X.
On revient dans pas long.
Radio X.